Alors, bon matin à tous et merci Gabriel, toute son équipe, les beaux chants de louange. Ça va bien ce matin? Par la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Alors, je vous invite à prendre vos Bibles et nous allons commencer, comme ça a été mentionné, l'étude du livre de Jonas. Un petit livre, seulement 4 chapitres. Mais qui renferme un message qui est aussi actuel pour nous aujourd'hui, en 2013, que quand il a été écrit. Et juste pour vous aider à le trouver, si vous trouvez Ézéchiel, ensuite Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, et là on est arrivé, Jonas. Et mon but ce matin, c'est de vous donner l'introduction du livre, de mettre la table, si vous voulez, pour vous donner le goût pour ce qui est à venir. Mais je vais vous poser une question, est-ce que vous avez fait vos devoirs? Parce que dans les semaines précédentes, qui ont précédé justement aujourd'hui, on vous avait encouragé à vous préparer à recevoir la parole, tout comme les prédicateurs se sont préparés pour vous la donner. Et ce sera aussi une belle occasion pour vous de comparer vos notes avec celles des prédicateurs, puis voir là où est-ce que les deux concordent. Alors, j'ai intitulé ce message « Jonas, le missionnaire pur disposé ». Et nous allons voir pourquoi ce titre est à propos. Alors, nous y sommes, Jonas, chapitre 1er. Et juste pour nous mettre un peu dans le contexte, on va lire les 3 premiers versets. Jonas 1, versets 1 à 3. « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils de Amittai, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle. » car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et en guise d'introduction, le livre de Jonas se trouve parmi ce qu'on appelle les prophètes mineurs. Osée jusqu'à Malachie, nous avons 12 livres. Et pourquoi mineurs? Parce qu'ils sont en contraste avec ce qu'on appelle les prophètes majeurs, ça veut dire Ésaïe à Daniel, qui renferment 5 livres. Non pas parce qu'ils sont inférieurs ou de moindre importance, mais parce que ces livres-là sont simplement moins volumineux. Je vais vous donner quelques exemples. Dans Joël, il y a seulement 3 chapitres. Abdias, 1 chapitre. Jonas 4 chapitres, Nahum 3 chapitres, Agé 2 chapitres, etc. Quand vous regardez les prophètes majeurs, vous allez voir que Ésaïe 66 chapitres, Jérémie 52, Ézéchiel 48. Alors c'est pourquoi on a divisé ça dans les prophètes mineurs, les prophètes majeurs. Et vous savez, comme être humain, nous avons tous la tendance d'avoir nos préférés, nos chouchous, pour ainsi dire, même parmi les livres de la Bible. Il me semble que les évangiles sont tellement intéressants, n'est-ce pas? Nous voyons le Christ à l'œuvre, nous voyons ses miracles, nous entendons ses paroles de sagesse. Nous sommes épatés, même parfois nous disons comme les huissiers qui sont allés pour le saisir, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et même aussi quand on lit le livre des Actes des Apôtres, on voit les premiers chrétiens à l'œuvre, le Saint-Esprit qui travaille puissamment pour valider le message. On est épatés. Mais qu'en est-il de Joël, Amos, Abdias, Sophonie et compagnie? Malheureusement, souvent nous négligeons ces livres. Et pourtant, 2 Timothée 3,16 nous dit que toute écriture, Joël, y compris Joël, Amos, Abdias, Sophonie et compagnie, est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu et la femme de Dieu aussi soient accomplis et propres à toute bonne œuvre. Alors, comprenons bien ce que la parole de Dieu nous dit pour être accompli d'être un tout. On a besoin de l'enseignement aussi de Joël, Amos, Abdias, Sophonie et compagnie. Si on va être accompli. Je fais des rimes. Hein? OK, alors, au tout début de cette mini-série sur Jonas, j'aimerais vous inviter à prier avec moi, comme ça a été mentionné ce matin. Que même si c'est un petit livre, le Seigneur puisse utiliser le message de Jonas de façon particulière pour nous exhorter, pour nous édifier et aussi pour nous consoler. Alors, le livre de Jonas, prophète mineur, mais ce livre est aussi un livre missionnaire. Parce que dans le livre, nous voyons un Dieu missionnaire qui envoie son missionnaire, qui est Jonas, israélite, vers un peuple païen, un étranger, le peuple de la Syrie, dont la capitale est Ninive. Et nous avons cela dans Jonas 1, 2, comme nous avons lu. « Va à Ninive ». Et aussi dans Jonas 3, 2, Dieu va répéter aussi le même commandement, une deuxième fois, « Va à Ninive ». Et vous savez que Dieu est un Dieu missionnaire. Jésus-Christ, dans Jean 17, 18, va dire ceci aussi. « Comme tu m'as envoyé dans le monde. » Alors Dieu, il est dans le business justement d'envoyer des gens. C'est un Dieu missionnaire. Et le Dieu missionnaire a aussi un plan pour son peuple et pour le peuple d'Israël. Le plan de Dieu, c'était pour que ce peuple soit aussi une nation missionnaire, pour proclamer la vérité de Dieu aux nations, à des non-juifs. Et dans 1 Chronique 16, 18, pas besoin d'y tourner, j'ai mis une partie du texte ici. David, dans un élan de joie, on vient de rentrer l'arche justement de l'Éternel dans la ville de Jérusalem. Et David va dire ceci, « Louez l'Éternel, comme nous avons fait ce matin, invoquez son nom. » Mais arrêtez pas là. Ça, c'est l'adoration. Et l'autre côté de la médaille, faites, remarquez bien, parmi les peuples. C'est au fait. Le verset 24, il va dire ceci, « Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. » Et Psaume 96, 10 va reprendre le même thème. L'exhortation est adressée à Israël dans ces mots. Dites, parmi les nations, l'Éternel règne. Alors, Dieu a donné cette mission d'être une nation missionnaire, même avant que ce peuple rentre dans la terre promise. Et dans le texte que nous avons dans Deutéronome 4, 5, 6, où est-ce que Moïse est en train de parler de la nouvelle génération, parce que la première génération était morte dans le désert, sauf Josué et Caleb. Mais il lui rappelle aussi que quand vous êtes dans ce pays-là, en Canaan, vous avez une mission, vous êtes un peuple à part, et vous serez aussi, vous devrez être un peuple missionnaire. Il va dire ceci, « Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances afin que vous les mettiez en pratique. Dans le pays dont vous allez prendre possession, le pays de Canaan, ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois. Mais comment? Mais par la bouche des Israélites. Et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Mais aussi, en plus d'appeler la nation d'Israël d'être une nation missionnaire, Dieu suscitait à l'intérieur de la nation d'Israël des hommes avec une vocation spéciale, on appelait ces hommes des prophètes, et dont la mission était de proclamer la vérité de Dieu à Israël, et souvent dans un contexte d'avertissement et de correction, de ramener le peuple justement à l'ordre, dans le droit chemin, quand le peuple s'éloignait de Dieu. Et on pourrait résumer le message comme suit. Enfants d'Israël, détournez-vous de vos mauvaises voies. L'Éternel vous pardonnera et vous bénira. Mais si vous persistez dans vos mauvaises voies, sachez que vous allez subir la correction, le jugement de Dieu. Et pourquoi est-ce que Dieu a pris la peine justement de donner ces hommes à la nation d'Israël? Parce que Dieu voulait que la nation garde justement sa sainteté et sa pureté pour qu'elle puisse garder son témoignage et ainsi continuer à être propre, à être un témoin aux nations. Ça fait du sens. Gardez votre témoignage, vous pouvez être un témoin. Parce que vous vivez ce que vous prêchez. Mais perdez votre témoignage à cause du péché. Et vous cessez d'être un témoin. Vous n'avez rien à dire. Et vous savez, le parallèle avec la nation d'Israël et avec l'Église, c'est frappant. Tout comme Israël, l'Église a été appelée par un Dieu missionnaire à être un peuple missionnaire, à être un peuple qui va proclamer justement la vérité de Dieu aux nations, aux inconvertis. Et là, je vais vous citer quelques textes que vous connaissez sans doute assez bien, le texte dans Jean 17, 18 que nous avons déjà cité. Jésus a dit ceci: « Comme tu m'as envoyé dans le monde et dans la chambre haute, il parle à ses disciples, il dit « Je les ai aussi envoyés dans le monde. » Dans Marc 16, 15, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Encore la mission. Matthieu 28, 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Acte 1, 8, B, vous avez aussi, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et tout comme Israël, l'Église doit se garder pure, sainte, si elle veut garder son témoignage auprès des inconvertis. Vous avez le texte dans 1 Pierre 2, 9, où Pierre rappelle justement aux chrétiens, vous êtes une race élue. Vous êtes un sacerdoce royal, une nation quoi? Une nation sainte. Et pourquoi? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous voyez la connexion? Une nation sainte, la sainteté, la pureté, afin que vous puissiez être justement cette bouche de l'Éternel qui parle de Dieu aux inconvertis. Et tout comme Israël, Dieu suscite parmi son peuple des hommes avec une vocation spéciale pour justement veiller sur la santé spirituelle de son peuple. Et nous avons cela dans Éphésiens 4, 11, où est-ce que nous lisons, le Christ a donné à l'Église les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteur et docteur pour le perfectionnement des saints et en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Ça, c'est le but justement de ces hommes. Et une fois que les saints sont perfectionnés, les chrétiens sont mûrs, c'est une église qui est en santé, qui progresse dans la sanctification. Qu'est-ce que cette église est supposée de faire? Mais le verset 15 qui nous dit ceci: elle professe la vérité dans l'amour. Et encore une fois, la connexion est là. Les saints sont perfectionnés, ils progressent dans la sanctification et ils ont le ministère justement de proclamer la vérité dans l'amour. Et je vais juste ouvrir ici une petite parenthèse que je trouve que c'est assez importante. Nous devrions garder alors cette perspective toujours en tête et aussi à la tête de nos priorités. Jésus-Christ, le texte dans Tite 2,14, pas besoin d'y tourner, mais le texte dit ceci, que Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nous, comme ce matin on a pris le temps de se rappeler, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, écoutez bien, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. Et comme je dis, malheureusement, il y a des églises dites évangéliques, et surtout chez nos voisins du Sud, où cette perspective-là, la sainteté, en vue justement d'être un témoin au peuple perdu, a été perdue de vue. Et on devient maintenant plus occupé par le nombre de chaises à remplir et les moyens de les remplir qu'avec la vérité de Dieu et la sainteté de Dieu. Et je vais être clair ici, ne me méprenez pas, je ne suis pas contre justement les grosses églises. D'ailleurs, une église en santé va se multiplier. Ça, c'est ce qui découle de la nature, de la croissance. Quand quelque chose est vivant, mais il y a une croissance, alors une église en santé va se multiplier. Et nous devrions faire tous nos efforts justement pour atteindre les perdus. Mais il ne faut pas aller à l'encontre de l'enseignement clair de la parole qui dit de professer la vérité dans l'amour. Et qu'est-ce que je veux dire dans une illustration? Typiquement dans ces églises, pour faire en sorte que les visiteurs se sentent confortables, se sentent chez eux, on a commencé à chercher à rendre l'évangile moins offensif. Alors on ne parle pas, surtout pas du péché, ne mentionnez pas cela, et encore moins de la repentance, et ni de l'enfer. Et une fois, soyons équilibrés. Je ne veux pas dire qu'on devrait négliger la courtoisie et le respect d'autrui. Ces choses ont des places, et quand les visiteurs viennent chez nous, on devrait les accueillir chaleureusement. Mais notre marque de commerce devrait être notre piété, notre sainteté. Et c'est ce que Paul va dire dans 1 Corinthiens 14, 24-25. Il parle d'un non-croyant qui entre dans l'église, entend la parole de Dieu, parole qui va le convaincre, pas une évangile diluée, mais qui va le convaincre, qui le juge, qui dévoile les secrets de son cœur, son péché. Et que fait-il? Est-ce qu'il se sent confortable? Est-ce qu'il se sent bercé? Au contraire, le texte dit qu'il va tomber sur sa face. Il va adorer Dieu. Il est vraiment converti. Et ensuite, on voit les fruits justement de cette conversion. Il publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Waouh! Ça, c'est une vraie conversion. Un homme qui vient, il est sauvé. Et tout de suite, il est devenu évangéliste. Il publie vraiment qu'écoute, Dieu est vraiment dans ce milieu-là. Et ça, c'est les deux signes qui accompagnent une vraie conversion. L'adoration et l'évangélisation. On annonce la vraie évangile. Et ça, ça a été accompli, pas en diluant l'évangile, ça a été accompli par la prédication du vrai évangile, faite par une église en santé, qui aime le pécheur assez pour lui dire la vérité, mais aussi dans l'amour. Et ça, c'est très important de garder ça en perspective. Et juste aussi, typiquement dans ces églises, puisque l'évangile a été dilué, puisque la sainteté de Dieu et la sainteté de son peuple ne sont plus une priorité, puisqu'on ne parle plus du péché, quand le péché surgit à l'intérieur, et les personnes qui ont été confrontées refusent de se repentir, mais on ne pratique pas la discipline. Et la discipline n'est pas mon sujet ce matin, mais je dirais une chose. Elle est nécessaire pour préserver la pureté du peuple de Dieu. Ce n'est pas une option. Dans 1 Pierre 1,16, Pierre va dire ceci, « Vous serez saints, car je suis saint. » Et même si nous perdons cela de vue, même si Israël avait perdu cela de vue, comme nous allons voir dans quelques instants, Dieu il ne perd jamais cela de vue. Il est 3 fois saint. Il ne change pas. Et sa vision pour Israël, sa vision pour nous comme Église, comme j'ai déjà mentionné, c'est que son peuple se conserve pur pour que Dieu puisse bénir son peuple et que son peuple puisse être en retour une bénédiction pour les autres. Et tout cela pour la gloire de Dieu. Alors, ce matin, dans le contexte du livre de Jonas, Israël est loin. Loin, 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 le peuple qui devrait être un peuple missionnaire. On pourrait se poser la question, mais comment ce peuple était rendu là? Alors, j'aimerais regarder quelques contextes, justement, pour expliquer comment se fait-il qu'Israël avait perdu sa vocation missionnaire. Tout d'abord, il y a le contexte politique. On est dans les années 760 avant Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui se passe à cette époque? Israël est divisé. Il y a eu une schisme après le règne de Salomon. Son fils Roboam avait pris le trône et là, ça a été divisé. Et depuis ce temps-là, il y a deux tribus, il y a deux nations qui existent. Il y a l'Israël au nord, qui est composé de 10 tribus. Et vous avez Juda au sud, qui est composé de 2 tribus. Et pendant cette période, Israël est une nation qui est prospère. Parce que Jéroboam II est roi d'Israël. C'est une règne qui est longue et prospère. Et pendant ce temps-là, le texte nous dit dans 2 Rois 14, 25, il va rétablir les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamat jusqu'à la mer de la plaine, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas, le prophète. Alors c'est un roi, justement, qui, permis par ses conquêtes militaires, l'expansion. Il y a l'expansion. Israël est prospère, ça va bien sur le plan politique et militaire, et là, justement, comme je dis, il y a l'expansion. Parmi les nations avoisinantes, il y avait ces puissances-là qui étaient toujours une menace pour Israël, les Syriens et les Assyriens, mais ils sont affaiblis. Alors, il y a une stabilité, une paix, justement, relative en Israël. Mais sur le plan spirituel, ça va mal. Et on aurait pensé le contraire. On aurait pu dire, mais écoute, Israël est prospère, il y a une grande prospérité, les ennemis sont affaiblis. Dieu avait été à l'œuvre, justement, juste pour vous citer 2 Rois 14 encore, il avait vu l'affliction d'Israël à son comble, et il les avait délivrés par Jéroboam. Ce roi-là avait été un instrument entre les mains de Dieu pour amener Israël dans cet état justement de paix et de prospérité. Et malgré cela, le peuple était toujours dans un état lamentable, et Dieu avait suscité des prophètes. Amos et Osée, pour justement ramener le peuple, parce que malgré le fait que le règne est prospère, c'est aussi un temps de grande apostasie spirituelle. Et là, on va, dans ce livre des prophètes, Dieu va utiliser ces hommes justement pour aviser le peuple. Et l'apostasie commence avec le roi. Jéroboam 2, nous lisons le texte, il fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Alors, juste pour vous donner une petite, mettre dans le contexte, quand il y a eu le schisme, il y a eu le roi Jéroboam, le premier, et lui, il avait installé une fausse religion en Israël. Il avait pris deux veaux dans, il avait mis un au nord à Dan et l'autre au sud de Bethel. Il a dit, Israël, vous n'avez pas besoin d'aller à Jérusalem pour adorer l'Éternel. On va rester dans notre pays, parce qu'il n'y avait pas. Il dit, si le monde y retourne en Juda, en sud, pour adorer le vrai Israël, mais c'est le moment d'aller l'écran, ils vont s'attacher au roi qui est là, puis je vais perdre mon royaume. Alors il a mis sa propre religion en Israël, au nord. Et le peuple est tombé dans l'idolâtrie. Et Jéroboam II, maintenant le roi qui est dans le contexte du livre de Jonas, le livre nous dit qu'il est fait mal qui est aux yeux de l'Éternel. Il s'attache justement aux ses péchés. Il est idolâtre aussi. Et c'est ça qui arrive souvent. Tel leader, tel peuple. Vous avez aussi en Israël cette situation, comme je dis, une apostasie généralisée. Et non seulement sur le plan spirituel, vous avez une corruption et vous avez aussi la déchéance morale. Juste un texte dans Osée, le texte dit « Mon peuple consulte sans bois ». Imaginez, ça c'est le peuple éternel qui est en train de consulter les idoles. Et son bâton qui lui parle, car l'esprit de prostitution égare. Et ils se prostituent loin de leur Dieu. Ça, c'est le contexte du livre de Jonas. La prospérité matérielle, ça va bien, mais une pauvreté lamentable, spirituelle, où le peuple est justement dans l'idolâtrie. L'adoration de Dieu, c'est juste un rituel. Et le peuple aussi avait perdu son témoignage, et par ce fait même aussi, sa vocation missionnaire. Et c'est dans ce contexte-là qui va nous aider à mieux comprendre maintenant le message et le thème du livre de Jonas. Il y a plusieurs thèmes et ce matin, j'en ai choisi trois. Trois thèmes majeurs. Et je vais vous les citer sans nécessairement en ordre d'importance. Vous avez le premier thème, c'est une réprimande à la nation d'Israël. Dieu regarde son peuple, il n'est pas ce qu'il devrait être, et Dieu va intervenir avec une réprimande. Et c'est pour justement sensibiliser le peuple de son état. Il avait envoyé des prophètes, comme j'avais dit, pour les avertir. Amos 3:2, je vous ai choisi, vous serez parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Alors Dieu avait promis justement d'amener un jugement. Et tristement, dans Amos 4:10, nous allons lire ceci. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi. Et on pourrait se poser la question, mais comment se fait-il que ce peuple est si têtu, avoir le cœur si endurci? Mais je vous dirais une chose, il ne faut jamais sous-estimer jusqu'où le cœur humain peut aller. Vous connaissez le texte en Jérémie 17:9, le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant et qui peut le connaître? Alors Israël est endurci. Et juste pour faire une fast-forward, là, ils vont rester dans cet état d'endurcissement. Et en 722, là on est avant Jésus-Christ, alors on recule. L'époque de Jonas c'est 760. Mais quelques 40 années plus tard, les Assyriens, les mêmes Assyriens vont venir, ils vont amener Israël en captivité et justement ils vont connaître destruction et captivité à cause de cet endurcissement. Mais si on retourne dans le contexte de Jonas, on est en 760 et Dieu va maintenant réprimander son peuple. Et qu'est-ce qu'il va faire? Et vous voyez comment est-ce que Dieu travaille? C'est assez intéressant. Il va envoyer Jonas, le prophète, vers un peuple païen, les Ninivites, avec un avertissement de jugement imminent de Dieu. Et qu'est-ce qui va arriver? Le peuple va se repentir. Une ville entière, 600 000 personnes, va se repentir à la prédication d'un étranger qui est allé là juste une seule fois avec un message de Dieu et une ville entière, 600 000 personnes vont se repentir. Et ça est une honte pour Israël parce que Dieu avait envoyé pas les étrangers, le propre prophète. Et Israël est le peuple de Dieu. Et ils n'ont pas eu juste une prédication, ils ont eu des maintes prédications. Et malgré cela, ils restaient toujours dans la désobéissance et refusaient de se repentir. Et même Jésus, à l'époque de Jésus, il va regarder les scribes et les pharisiens, il va leur dire la même chose. Il dit, les gens de Ninive vont se lever au jour justement du jugement et ils vont vous condamner. Parce qu'ils se sont repentis lors de la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus grand que Jonas. Dieu les a envoyés Jésus-Christ, le prophète des prophètes, le missionnaire des missionnaires. Et malgré cela, ils étaient restés dans l'endurcissement. Et vous connaissez l'histoire d'Israël, en 70 de notre ère, les Romains sont venus, ils les ont amenés en captivité, et le peuple est resté loin de leur pays jusqu'en 1948, quand ils sont revenus. Mais ça, c'est le contexte. Et ça, c'est pourquoi Dieu, justement, utilise cela pour essayer de ramener le peuple dans le droit chemin. Deuxièmement, il y a un contexte, et c'est un réprimande de Jonas. Jonas, il y a une attitude, une mentalité anti-missionnaire. Et je dirais même qu'il est plus coupable que le peuple d'Israël. On peut comprendre la nation d'Israël. Ils sont dans l'idolâtrie, la vocation missionnaire d'aller évangéliser les autres. Ça, c'est la chose de plus loin de leur tête. Mais Jonas, c'est prophète de l'Éternel. C'est lui qui devrait justement inciter le peuple à s'engager dans ce ministère, d'être un peuple missionnaire aux nations. Et quand Dieu lui donne la commission lui-même d'aller justement parler aux étrangers avec le message de l'Évangile, il va désobéir. Alors, il ressemble au peuple, mais les racines, justement, de son attitude sont différentes. Et il y a un bon livre qui est sorti. Ça s'appelle « Les idoles du cœur ». Et je vous conseille de lire, parce que dans ce livre-là, l'auteur va justement parler de Jonas. Et il va sortir justement les racines de son cœur, les idoles qui étaient dans son cœur, qui ont fait en sorte que quand Dieu l'a appelé pour aller, il ne voulait pas. Et quand il est allé, il a prêché un message justement, et le peuple se sont repentis, on aurait pu penser que Jonas serait là, « Yes, sir, oui !» Il se réjouit, mais non, c'est le contraire. Alors ce livre aussi, c'est un réprimande à Jonas pour son attitude anti-missionnaire. Et troisièmement, le livre nous enseigne à propos de Dieu. Ça porte le nom de Jonas, mais le vrai héros là, dans ce livre, c'est Dieu. Dieu qui est le créateur souverain. Je n'ai pas le temps ce matin de parler, mais si vous avez lu le livre, vous allez voir comment Dieu y a autorité sur tout. Sur le vent, sur le grand poisson, sur le ricin, sur le vent chaud. La seule personne dans ce livre qui résiste à Dieu, c'est le prophète. Imaginez, hein, comment c'est grave. Dieu parle à le poisson obéit. Il parle en vers, le vers obéit. Et le prophète qui représente la race humaine, le summum justement de la création de Dieu, c'est lui qui va résister à la parole de l'Éternel. Nous avons aussi que Dieu est le juge suprême, parce que qui juge le péché, qui convainc le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ça, c'est le cœur du message de Jonas. Et Dieu envoie des avertissements et appelle les gens à la repentance. Mais aussi dans ce livre, notre thème, nous avons un sauveur qui est gracieux, qui est compatissant, qui est lent à la colère, qui est riche en bonté. Et quand les gens se repentent, il est prêt à pardonner. Il ne se lasse pas de pardonner. Ça, c'est des beaux textes qu'on va trouver dans le livre. Et vous savez une chose? Toutes ces trois attributs-là, Dieu est créateur, le fait que Dieu est juge, ses compassions et son pardon sont offerts librement aux pécheurs repentants, ça, c'est le message de l'Évangile. Et rapidement, deux choses, le contenu du livre, et après ça je termine. Il y a quatre chapitres dans le livre de Jonas, et dans chaque chapitre, on peut observer qu'est-ce que Jonas fait, et comment après, qu'est-ce que Dieu fait. Alors, je me suis amusé avec le chapitre 1, Jonas désobéissant, Dieu poursuivant, Jonas coulant. Dans le deuxième chapitre, le poisson avalant, Jonas priant, Dieu délivrant, le poisson vomissant. Dans le chapitre 3, Jonas, il y a eu un deuxième commission. Retourne, Jonas, là, j'ai pas fini, là. Va prêcher l'Évangile. Jonas obéissant, les Ninivites se repentant, Dieu épargnant. Et dans le chapitre 4, Jonas va bouder, il boude Dieu boudant. Le ricin croîtrant, le ver se régalant, le soleil tapant, mais qu'est-ce qui se passe ici? Dieu instruisant. Que notre Dieu est patient, hein? Très patient. Il va prendre le temps d'instruire son prophète. Alors, en conclusion, juste quelques paroles d'exhortation et d'encouragement. Je sais qu'il y a parmi nous ce matin plusieurs qui ont pris cette responsabilité d'être un peuple missionnaire au sérieux et que vous êtes déjà inscrits dans justement les efforts d'évangélisation comme à l'Expo. Il y a aussi le festival de blues et aussi au mois de septembre le festival de Saint-Tite. Et Dieu merci pour vous. Ce matin, si le Seigneur vous a parlé ou si dans les séries de ceux de Jonas, le Seigneur vous parle et vous voulez vous engager, mais allez voir Jean-Marc, Robert Vincent, en tout cas, le comité d'évangélisation, ça leur ferait un plaisir, justement, de vous aider à vous impliquer. Mais ce qui m'encourage dans ce texte ce matin, et pendant que j'étais en train de préparer, c'est de constater que nous ne sommes pas seuls dans cette aventure, d'amener justement, de professer la vérité dans l'amour aux inconvertis. On n'est pas seul. Dieu s'intéresse profondément et même beaucoup plus que nous au salut des âmes. Et sa grâce et sa miséricorde s'étendent même vers ceux que nous qualifierons de pas bons, de méchants et même des non atteignables. Et vous allez voir, ça saute aux yeux dans le livre de Jonas. Il fait tout pour que ce peuple entende l'évangile. Il n'en est pas seul. Tout ce qu'il nous demande, c'est de l'accompagner. Et la deuxième chose qui m'a encouragé dans ce livre, c'est que Dieu n'a pas nécessaire d'attendre d'être parfait avant que Dieu nous utilise. Sinon, on va attendre une éternité. Dieu se spécialise dans l'utilisation des faibles, des peureux, des pauvres. J'en passe. Vous lisez les juges, là, vous allez voir tous ces hommes-là, tout handicapés, l'un après l'autre. Puis Dieu se plaît à les utiliser. Pourquoi? Parce que quand il agit dans ce contexte-là, à toute la gloire lui revient. Et ce matin, si Dieu a pu utiliser Jonas, cet homme anti-missionnaire au bout, mauvaise attitude, rebelle au bout, et pourtant Dieu s'est servi de lui pour accomplir une grande réveil. Il y a de l'espoir pour vous et pour moi. Alors la question que je vous pose ce matin simplement est, êtes-vous disponible? On va prier. Seigneur, ce matin, nous te remercions que tu es le Dieu missionnaire. Tu as envoyé ton Fils du ciel vers ta création qui était perdue dans les ténèbres. Et ce matin, tu nous parles à travers ce livre. On voit comment, justement, tu es un Dieu de compassion, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, qui est prêt à pardonner le pécheur repentant. Et tu nous demandes aussi d'être co-ouvriers avec toi. Alors, on te demande de parler nos cœurs. Donne-nous ce zèle, Seigneur, malgré nos faiblesses, nos infirmités, que nous ne regardions pas à nous-mêmes, mais que nous puissions, avec toi, Seigneur, aller par toutes les nations et amener la bonne nouvelle à toute la création. Alors, bénis-nous, Seigneur, fortifie-nous à travers cet enseignement. Et dans les semaines à venir, si tu tardes, que ce livre puisse nous faire du bien, puisse faire grandir ton peuple, et que cela, Seigneur, soit pour ta gloire. Demandant ces choses au nom de Jésus. Amen.